VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle 2016 aux États-Unis. La candidate démocrate Hillary Clinton essaie de se relever du choc de la relance surprise de l'affaire de ses emails par le FBI et la police fédérale américaine, alors que les sondages se resserrent à 8 jours seulement de l'élection. L'avance de Mme Clinton sur son rival républicain Donald Trump en Floride est taclée, s'est évaporée. Et au niveau national aussi, son avance s'est légèrement tassée. Désormais à 45% des intentions de vote contre 41,6% pour le milliardaire, selon la moyenne des récents sondages. Résultat, les démocrates tirent à boulet rouge sur le directeur du FBI, alors que Donald Trump, lui, cherche à exploiter politiquement la situation pour gagner du terrain. Idriss Fall.
Hillary Clinton est retournée hier en Floride, un état décisif dans la course à la Maison-Blanche. Son avance a légèrement fondu et même une nouvelle enquête d'opinion du New York Times, Upshot et Siena College donnait hier Donald Trump vainqueur à 46% contre 42% à Mme Clinton. Pour le camp démocrate, la faute est au directeur du FBI, James Comey, qui a créé vendredi la surprise en annonçant la relance de l'enquête sur les emails privés de Hillary Clinton. John Podesta, président de la campagne de Mme Clinton, a dénoncé une action sans précédent, affirmant que le directeur du FBI est passé outre le conseil des responsables du ministère de la Justice, rappelant que ce ministère auquel le FBI est rattaché avait comme tradition de ne pas faire de l'interférence dans une élection. Il aurait pu commencer par regarder ses emails avant de faire ça au milieu d'une campagne présidentielle, a insisté M. Podesta, jugeant inapproprié la conduite de M. Comey. Samedi, Mme Clinton avait jugé étrange et profondément inquiétant le comportement du directeur du FBI, qui, rappelons-le, a été longtemps républicain avant d'être nommé par le président Barack Obama en 2013.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire, aucun chiffre officiel n'a été fourni après le vote de dimanche, mais la participation semblait assez basse, selon l'agence Reuters, bien au-dessous des 54,5% enregistrés lors de la présidentielle l'an passé, notamment à Abidjan, la capitale économique du pays. L'opposition avait appelé au boycott du scrutin et des groupes de jeunes ont perturbé le vote et saccagé ou emporté du matériel électoral dans plusieurs villes du pays. Ce fut le cas à Gagnoa, fief de l'ex-président Laurent Gbagbo. Pour un témoignage, écoutons M. Yakuba Sila.
Nous avons constaté dans des villages, il n'y a pas eu de vote. Ça, il faut dire la vérité, il n'y a pas eu de vote. À Maman, c'est dans certains villages à Ouragayo, même dans la ville à Gagnoa. Nous avons constaté à Babré, Garayo, Kate Soleil, tous les bureaux de vote ont été saccagés. Mais c'est les bureaux qui sont vers le commerce du Labourou. Là, il n'y a pas de souci, les gens ont voté normalement.
Et quel est votre sentiment? Est-ce qu'il n'y a pas eu de précipitation dans la tenue de ce référendum?
Bon, précipitation, ça a été prévu déjà à la campagne du président de la République. Il a tenu à changer la constitution. Donc, pour nous, ça a été déjà prévu dans son mandat. Pour nous, ce n'est pas une précipitation. Il a consulté toutes les couches socio-professionnelles, les communautés et consorts. Donc, je crois que ce n'est pas une précipitation.
Mais est-ce que ça ne prouve pas que le pays est loin d'être réconcilié alors?
Ça, la réconciliation, ça, il faut dire, nous avons recours qu'en Dieu. Mais il faut qu'on comprenne que nous sommes ensemble, nous pouvons nous réconcilier sans l'ONU-ci, sans la communauté internationale. Il faut que nous nous asseyons pour dire que la Côte d'Ivoire nous appartient. Elle est seule et indivisible.
Yakuba Sila Gagnoa en Côte d'Ivoire. Au Bénin, le cas Sébastien Javon continue de défrayer la chronique. L'homme d'affaires candidat malheureux à la dernière présidentielle de mars et 3 agents de son entreprise sont à la brigade de la gendarmerie à Cotonou depuis vendredi. C'est à la suite de la découverte d'une quantité de cocaïne évaluée à 18 kilos et estimée à 9 milliards de francs CFA dans l'un des conteneurs de sa société chargée de la distribution de produits agroalimentaires. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleurat-Dandé fait le point.
La confusion est encore totale. Les Béninois ont du mal à se faire la réalité de l'heure. Qu'un homme aussi respectable que Sébastien Adjavon soit mêlé de près ou de loin à la commercialisation d'un produit aussi prohibé. L'opinion semble divisée autour de la question. Une partie de la population y voit un coup monté par les actuels gouvernants, pendant que d'autres pensent qu'il est temps que ceux qui se sont enrichis de façon illicite soient mis hors d'état de nuire. Mais loin de toute cette agitation, la réalité est là. Sébastien Adjavon est gardé à vue pour les besoins de l'enquête. Quelques secrétaires généraux et membres de la société civile ont d'ailleurs, à travers une conférence de presse, dénoncé ce qu'ils appellent violation de la loi et des libertés individuelles. Déjà, on annonce dans les couloirs la mise sur pied d'une commission devant se pencher sur comment 18 kg de drogue pure se sont retrouvés dans un conteneur censé convoyer vers Cotonou des produits congelés. Pendant ce temps, les réseaux sociaux restent inondés d'intoxications, les unes les plus rocambolesques que les autres. De Cotonou, Ginette Fleur, dans l'Éprouvé au Afrique.
Au Mali, assassinat et attaque armée, insécurité croissante. À Bamako, la capitale, la peur et la violence se sont installées sur place et ses alentours. Pour le seul mois d'octobre, 3 attaques ont eu lieu, faisant des victimes et des blessés graves. Il y a eu la récente attaque d'une rare témérité d'Ecobank de Bamako. Notre correspondant Kassim Traoré.
Le braquage de la semaine passée devant le siège d'Ecobank est resté à travers la gorge de pas mal de Bamakois qui n'ont pas compris l'inactivité des forces de sécurité au moment de ce braquage.
C'est-à-dire le chemin que les bandits ont pris pour prendre la fuite, ils ont dépassé des policiers pour continuer sans que ceux-ci réagissent. C'est inexplicable.
La journée du jeudi 27 octobre 2016 est encore dans la mémoire de bon nombre de jeunes, surtout les étudiants de la faculté des lettres qui ne sont pas loin du siège d'Ecobank.
On voit que réellement, le gouvernement ne joue pas pleinement son rôle. Donc on voit que la population est exposée à des dangers.
Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, des mesures ont été prises. Des interpellations ont commencé au niveau des différents commissariats de la capitale. Bakoun Kané, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile.
Il y a eu des interpellations. Je ne saurais vous parler spécifiquement du nombre de personnes interpellées ou de l'identité des gens qui ont été interpellés.
Parmi les personnes interpellées, il y a des travailleurs d'un garage d'où est partie la plaque de la voiture des braqueurs. L'enquête se poursuit au niveau des différents commissariats. Même le téléphone de la victime est en train d'être analysé par les enquêteurs. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Violence en Centrafrique. Des affrontements entre groupes armés ont fait de nouvelles victimes, des morts dimanche à Bangui. Des règlements de compte entre des groupes d'autodéfense dans le quartier musulman du PK5 auraient fait une dizaine de morts, selon un bilan de sources locales non encore confirmé par la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, désormais en première ligne face aux groupes armés. Ces violences interviennent alors que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, officialise ce lundi la fin de l'opération militaire Sangaris française, lancée en décembre 2013 pour arrêter les violences et le chaos dans le pays. On passe à l'actualité hors d'Afrique. En Irak, les djihadistes qui défendent Mossoul font désormais face à un nouveau front. Les combattants des unités de la mobilisation populaire Hashd al-Shaabi sont entrés en action ce week-end, Idriss Fall.
Cette coalition de puissantes milices soutenues par l'Iran était jusque-là peu impliquée dans l'offensive. Les Hashd al-Shaabi ont annoncé hier avoir repris plusieurs villages, dont Al-Imraini, majoritairement peuplé de musulmans chiites. Ces combattants essaient de couper les lignes d'approvisionnement entre Mossoul et Raqqa, autre fief du groupe État islamique dans l'est de la Syrie. Dans le sud de Mossoul, les forces fédérales ont repris samedi la localité d'Al-Shura après une semaine de violents combats. À l'est, le front semble plus calme. Dans la ville chrétienne de Bartala, à 5 km de Mossoul, l'armée irakienne et ses sections d'élite essaient de consolider leur position. Les combats à l'ouest pourraient menacer la ville antique de Hatra, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, et les célèbres ruines de Nimrod. Les Nations Unies ont fait état d'exécutions de masse à Mossoul et de l'enlèvement de près de 8 000 familles qui pourraient être utilisées comme boucliers humains.
Et pour terminer, au Liban, le Parlement libanais doit élire ce lundi à la présidence l'ex-général de l'armée, Michel Aoun, mettant fin à un vide institutionnel qui s'éternise depuis 2 ans et demi en raison des profondes divisions politiques dues à la guerre en Syrie voisine. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.